Chapitre 9. April. April dormit jusqu'en fin de matinée, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le début du blocus. Elle ne se rappelait pas avoir rêvé, et se réveilla engourdie, comme si elle était restée allongée dans la même position pendant des heures. Voilà donc ce que l'on ressentait après être arrivé au bout de son obsession. C'était nouveau pour elle. Et elle n'en aurait peut-être jamais le cœur net, car cette obsession avait laissé place à un objectif. Elle se rendrait à Ann Arbor dans l'espoir d'y trouver quelqu'un qui connaisse la vérité au sujet de l'AVLS et de Bill. Et symboliquement, c'était aussi une manière de rendre hommage à son mari. Elle bouclerait la boucle de leur relation en allant contempler par elle-même le résultat de l'œuvre de sa vie. Oui. Elle prenait la bonne décision. Elle se trouvait dans ce qui avait dû être un petit bureau, en face de la pièce où Koopman dormait et travaillait. Elle se leva, s'étira, et sentit ses articulations craquer. Bon sang, elle avait un mal fou à émerger. Tout son équipement était exactement là où elle l'avait laissé. Par précaution, elle éjecta le chargeur de son Super 90 et en vérifia le contenu. Rien à signaler. Elle n'aimait pas porter d'armes. Mais le monde étant ce qu'il était. Et puis, elle était particulièrement attachée à ce fusil. Elle l'avait ramassé à côté du corps de l'agent de la division qui avait donné sa vie pour la sauver. Doug Sutton. Qui était-il avant l'épidémie? Avait-il des proches? Une moitié? Quelqu'un d'autre pour honorer sa mémoire et son sacrifice? Elle ne le saurait sûrement jamais. C'était une sacrée réflexion à se faire au saut du lit. Aussi, après il s'efforçait de ne plus y penser, lorsqu'elle sortit dans le couloir et aperçut Koopman dans la pièce d'en face.
« Bonjour, » la salua-t-il. « Vous avez bien dormi, j'espère. Vous trouverez la salle de bain au bout du couloir. »
Loué soit la gravité, pensa April en tirant la chasse. C'était grâce à elle que le réseau de distribution des eaux fonctionnait à New York, et la plupart des petits bâtiments de la ville en avaient donc encore. Elle ignorait totalement comment les gens se débrouillaient sans eau courante. Mais elle le saurait bien assez vite, non? Lorsqu'elle revint dans le bureau de Koopman, il sortait une cafetière et deux tasses. Incroyable! S'étonna la jeune femme. « Où avez-vous trouvé du café ?»«
J'ai quelques contacts au sein de la JTF, et je connais des gens en ville qui savent y faire. De temps en temps, mes relations me permettent ce genre de petit luxe. »
April huma la vapeur du café, dont l'arôme fit déferler en elle un torrent de souvenirs. Boire le café était un acte aussi banal que précieux, pensa-t-elle. Un petit plaisir du quotidien qui ne manquait jamais de la satisfaire. Ce jour-là, c'était un véritable miracle, car Dieu seul savait quand cela se reproduirait. Elle but une gorgée et faillit fondre en larmes, car ce goût lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu à cause d'Amherst et de sa folie apocalyptique. Mais elle se reprit aussitôt, avala encore un peu de café et dit « Merci, c'est... Enfin, je ne m'attendais pas à être aussi gâté.
Je fais mon possible, répliqua-t-il. Vous avez tellement souffert.
Pas autant que d'autres, dit-elle en pensant à Doug Sutton, ainsi qu'à Miko et à Drew, et à tous ceux qu'elle avait vus mourir ces derniers mois.
À Bill.
Bon, reprit-elle, vous m'avez dit connaître quelqu'un qui pourrait me faire traverser l'Hudson. Koopman posa sa tasse et s'éclaircit la gorge.
« C'est une très mauvaise idée. Et vous le savez. »
« Ce que je sais, c'est que je le ferai d'une manière ou d'une autre, quoi que vous en pensiez. » April ne haussa pas le ton. Ayant besoin qu'il lui rende ce dernier service, elle devait rester ferme, sans pour autant se l'aliéner. Elle porta le café à ses lèvres et se perdit une fois encore dans son arôme.
« Eh bien, » finit par répondre Koopman, « ce que je peux faire, c'est envoyer un message aux Templiers de Riverside. Ce que Koopman voulait dire par « envoyer un message aux Templiers de Riverside », c'était rédiger une lettre qu'April devrait leur remettre. « Ils sont méfiants, mais ce sont des gens bien », la rassura-t-il tandis qu'il écrivait. « S'ils m'abattent avant d'avoir l'occasion de la lire, ça n'aura pas la moindre importance », lui fit-elle remarquer. « Ça n'arrivera pas, je vous le promets. » Koopman signa, puis plia soigneusement la feuille en trois avant de la tendre à April. « Je vous ai dit que c'était une très mauvaise idée et je n'ai pas changé d'avis. Mais je crois aussi que si quelqu'un peut réussir, c'est bien vous. Ce message devrait vous y aider. » Après quelques instants, il ajouta « Je vais également m'assurer que le point de contrôle de la JTF au coin de la rue vous laisse sortir. » Son café terminé, ils se mirent en route. La jeune femme emportait toujours le nécessaire. Elle avait une chambre en ville, à l'arrière d'une vieille boutique de souvenirs sur la 28e rue, mais elle n'avait aucune raison d'y retourner maintenant. Elle ramassa son sac, puis le chargea sur ses épaules. Avant de partir, elle souhaitait cependant se libérer d'un dernier poids. « Merch », dit-elle simplement. C'était le surnom qu'elle avait inventé lors des longues conversations qu'elle s'imaginait avoir avec l'auteur de New York Collapse, quand elle s'évertuait à décrypter ses motivations et à percer les mystères du livre. Ce pseudonyme, Warren Merchant, était l'un des derniers indices. En néerlandais, Koopman signifiait « marchand ». Elle avait compulsé des piles et des piles de livres à la New York Public Library pour le découvrir. Koopman était retourné à son bureau et à ses allers-retours entre son carnet et son écran d'ordinateur. Il leva les yeux. « Merch ?» Pour Merchant, il fallait bien que je vous donne un surnom en étudiant votre livre, expliqua-t-elle avant de marquer une pause pour réfléchir à ce qu'elle voulait lui dire. Écoutez, je tenais à vous remercier. C'est grâce à votre livre si je suis toujours en vie, et c'est sa véritable nature qui m'a permis de tenir le coup et d'avancer. J'ignore si Bill serait encore là si vous aviez contacté les médias au lieu de l'écrire. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Moi, en tout cas, je serais morte depuis longtemps. Alors, merci. » Il se leva et baissa la tête, comme pour esquisser une révérence. Le geste lui sembla très courtois.
« C'est moi qui devrais vous remercier, » répliqua-t-il. « Tout ce que vous avez fait pour arriver jusque-là démontre que ce livre n'était pas une erreur. Bonne chance, April Keller. J'espère que vous trouverez ce que vous recherchez. »
Koopman lui indiqua où se trouvait le point de contrôle de la JTF le plus proche de sa cachette, au bout de la 6e avenue, devant Central Park. April se pressa, non sans s'assurer que son Super 90 était bien visible, et elle arriva ainsi là-bas sans encombre. Fortifié à l'aide de sacs de sable empilés sur un conteneur, le point de contrôle barrait l'accès à une porte aménagée dans la barrière de la Dark Zone. Les sentinelles de la JTF l'interpellèrent alors qu'elle était encore au milieu de la rue.
« N'approchez pas ou nous ouvrirons le feu !»
Elle mit son fusil en bandoulière et leva les mains.
« Je m'appelle April Keller !» cria-t-elle. « On m'a dit de me rendre à ce point de contrôle. »«
Qui vous a dit ça ?»«
Roger Koopman, il y a quelques minutes à peine. »«
Approchez lentement !»
Elle s'exécuta sans quitter les deux sentinelles des yeux.
« Elle ressemble à sa description, » fit l'une d'elles.
« Ouvrez la porte !»
lança la seconde en regardant derrière la barrière. Le portail se mit à coulisser. April avança et se glissa par l'ouverture dès qu'elle fut assez large. Deux autres soldats de la JTF gardaient ce côté-ci de la barricade, mais au sol. Ils la tinrent en joue sans relâche, puis refermèrent la porte derrière elle. La jeune femme prit vers l'ouest, le long de la bordure sud de Central Park, en repensant à toutes les fois où elle était entrée et sortie de la DZ. Avec un peu de chance, elle n'aurait plus jamais à le faire. Elle attrapa de quoi petit déjeuner sur le marché du Muséum d'Histoire Naturelle, puis continua vers le nord, en longeant Central Park jusqu'à la 110e rue, qu'elle prit pour
pour gagner Riverside Drive et ainsi remonter jusqu'à la lointaine pointe nord de l'île de Manhattan. Plus on s'approchait du fleuve, plus les patrouilles de la JTF se faisaient fréquentes, et April voulait pouvoir compter sur des secours en cas de problème. Il n'y en eut aucun. Une heure plus tard, elle passa la station de métro de la 190e rue et suivit une route sinueuse qui la mena à Fort Tryon Park. C'était un joli coin, où elle n'était allée qu'une seule fois. De grands promontoires couverts d'arbres donnaient sur l'Hudson à sa gauche. Par-delà le fleuve, elle voyait les palissades du New Jersey surmontées de tours d'habitation. À ses pieds, la Henry Hudson Parkway était vide et silencieuse. Quelques minutes après le vieux fort, elle sentit pourtant que quelqu'un la suivait. Quand elle se retourna, elle vit que ce n'était pas quelqu'un, mais trois personnes qui restaient à près de 50 mètres derrière elle sur la route du parc. Elle s'arrêta pour voir à quoi ils ressemblaient. Trois hommes, deux blancs, un noir. De grandes barbes et des tenues faites main assorties, ornées de ce qui ressemblait à une croix médiévale. Tous portaient des fusils.
« Vous êtes pas du coin ?» demanda le noir.
« Non, »
répondit-elle simplement.
« C'est ce qui me semblait. Sinon, vous seriez pas là. C'est sacré ici. On n'accepte pas les visiteurs. Si vous voulez vous joindre à nous, par contre, c'est différent. Il faut vous adresser au maître. »
Il lui montra d'un signe de la tête une direction qu'elle supposa être celle de la tour du musée des Cloisters, vers laquelle elle se rendait déjà.
« Non, je ne souhaite pas me joindre à vous, merci, » répondit-elle. « Mais je dois rencontrer le maître. »
« Je suis frère Michael. C'est moi qui décide qui peut lui parler. Vous lui voulez quoi ?»
Elle voulut retirer son sac à dos, mais se ravisa. À en croire Koopman, les Templiers de Riverside n'aimaient pas trop les surprises. Elle se contenta donc d'annoncer.
« J'ai une lettre pour lui. »
Il haussa les sourcils.
« Une lettre ? De la part de qui ?»«
Elle est adressée au maître, » insista-t-elle. « Je vous en prie, conduisez-moi à lui. »
Il soutint son regard encore quelques instants.
« Très bien, »
concéda-t-il. L'un des blancs lui prit son fusil à pompe, tandis que l'autre la fouillait de façon respectueuse. Tous deux lui emboîtèrent alors le pas et suivirent frère Michael qui les menait aux Cloisters. La seule fois où elle y avait mis les pieds, c'était juste après son arrivée à New York, à peine sortie de l'université et bien décidée à visiter la ville à toute vitesse. Le coin était calme, en tout cas pour New York. Les arbres étouffaient les bruits de circulation provenant de l'Hudson Parkway, et la plupart des gens pique-niquaient, promenaient leurs chiens ou suivaient des visites guidées. À présent, il n'y avait plus ni circulation, ni gens, et pour seul son, le bruit de leurs pas sur un fond de chants d'oiseaux et de bruissements de feuilles. Le musée des Cloisters était un complexe vieux d'une centaine d'années, bâti à partir des ruines de divers monastères médiévaux. C'était tout ce qu'elle avait retenu de la visite guidée. Et voilà qu'il avait repris sa fonction première de cloître, du moins en apparence, car les Templiers de Riverside n'étaient pas du genre à passer des journées sereines à transcrire des manuscrits et à chanter des cantiques. Elle les voyait s'activer autour du musée. Ils construisaient des fortifications, s'entraînaient au combat, organisaient des patrouilles. Il y avait quelques femmes, mais l'essentiel des troupes était composé d'hommes.
Pas étonnant que ce soit aussi calme, se dit April.
Si une bande de criminels ou de voleurs s'en prenait aux Templiers, ce serait sûrement leur dernière erreur. Frère Michael lui fit passer une entrée non sans saluer les gardes qui l'encadraient. La jeune femme se souvenait qu'il y avait un café quelque part dans le bâtiment, mais elle ne le vit pas en suivant ses hôtes jusqu'à la cour où il l'amenait. Le jardin était bien entretenu et les passerelles de pierre impeccables. Le maître se tenait seul au centre de la cour et regardait l'eau immobile d'un grand bassin. Grand et mince, il avait le crâne rasé, mais une barbe épaisse et blanche qui contrastait avec sa peau foncée.
« Frère Michael, »
lâcha-t-il alors qu'ils approchaient.
« Qui est-ce ? » « Elle prétend avoir une lettre pour vous, maître, »
répondit-il. L'intéressé ne les regardait toujours pas.
« Alors qu'elle me la montre. »
April posa son sac et en sortit la missive. Frère Michael la lui arracha des doigts pour l'apporter au maître, qui l'ouvrit et la lut.
« Merci, frère Michael, » lui dit-il. « Je vais lui parler. »
Il les regarda enfin et vit que l'un des Templiers portait deux armes.
« L'un de ces fusils lui appartient-il, frère Javier ?»«
Oui. »«
Tu peux le lui rendre. »
Frère Javier tendit le Super 90 à April, qui le prit par la sangle. Elle le passa à son épaule en faisant très attention à ne pas donner l'impression de le pointer sur le maître.
« Vous pouvez nous laisser, frère, »
fit ce dernier. Les trois Templiers acquiescèrent, puis retournèrent à l'intérieur.
« Roger Koopman, »
dit-il en regardant de nouveau la lettre.
« Comment l'avez-vous connu, Madame Keller ?»«
Vous pouvez m'appeler April, » répondit-elle. « Et vous, comment dois-je vous appeler ?»
Elle n'avait jamais supporté les titres et autres rituels de ce genre. Aussi ce petit numéro de moine guerrier commençait-il déjà à la fatiguer. Peut-être qu'eux devaient jouer le jeu, mais elle n'avait pas la moindre envie de prendre part à cette mascarade.
« Mon vrai nom est Andrew Bartholomew Rhodes, » expliqua le maître, « colonel du corps des marines à la retraite, et titulaire d'un doctorat en histoire de l'Europe médiévale que j'ai obtenu pendant mon service. »
Voilà qui commence à clarifier un peu les choses, pensa April. Un officier des marines à la retraite, passionné d'histoire médiévale, qui avait dû faire face à l'effondrement de la civilisation. Imiter les Européens d'autrefois en fondant un ordre monastique voué à la préservation de l'ordre lui avait sûrement paru logique.
« Dois-je donc vous appeler docteur Rhodes ou colonel Rhodes ?» demanda-t-elle.
Cela le fit sourire.
« Andrew suffira. « Mais vous n'avez pas répondu à ma question, »
dit-il sans pour autant la répéter.
Roger Koopman disposait d'informations importantes sur les circonstances de la mort de mon mari Bill, répondit-elle enfin. « Je l'ai retrouvé pour qu'il m'en fasse part. Maintenant, je dois mettre la main sur d'autres personnes, et pour ce faire, il faut que je traverse le fleuve. »
« C'est ce que stipule sa lettre, » fit le maître. « Peut-être devrais-je vous expliquer la raison pour laquelle il vous a conseillé de venir nous voir. Nous, les Templiers de Riverside, avons fait le vœu de protéger les innocents tant que les États-Unis n'auront pas réaffirmé leur existence. La JTF s'aventure rarement jusqu'ici. Et sans nous, tout le secteur au nord du pont George Washington ne serait plus qu'une zone de non-droit. »
Cela confirmait les suppositions d'April.
« Vous devez accomplir du bon travail, » reconnut-elle, « car c'est calme dans le coin. »«
Nous faisons en sorte que cela reste ainsi, » confirma-t-il. « Nous savons aussi que certaines actions de la JTF imposent des épreuves bien difficiles aux innocents dont nous avons la charge. Les gens ont besoin de nourriture et de médicaments, certes, mais également de recevoir des nouvelles de leurs proches par-delà cette île. Et de temps en temps, ils doivent aussi, comme vous, traverser le fleuve. »
Alors les moines guerriers jouent aussi les passeurs, en conclut April. Le microbe du dollar avait donné naissance à un nouveau monde aux règles étranges.
Je vois,
se contenta-t-elle de répondre.
Je n'en doute pas,
fit le maître.
Koopman ne tarit pas d'éloges à votre sujet dans cette lettre. Or, il n'est pas du genre à se répandre en compliments.
Il replia la lettre et la fourra dans sa tunique, puis jeta un œil au ciel. De grands nuages noirs planaient au-dessus du New Jersey, et quelques gouttes de pluie commençaient déjà à frapper les passerelles, à rider l'eau du bassin.
« Il reste encore 5 heures avant le coucher du soleil, » dit-il. « Nous vous ferons traverser le fleuve une fois la nuit tombée. » « D'ici là, permettez-moi de vous offrir l'hospitalité des Templiers de Riverside. Vous êtes la bienvenue parmi nous. Reposez-vous. Rafraîchissez-vous. Prenez un bain, si vous le souhaitez. »
Son regard se posa derrière April qui vit, en se tournant,
que frère Michael était revenu.
« Donne une chambre à notre invité, frère Michael, » ordonna le maître. « Assure-toi qu'elle ait tout ce qu'il lui faut. »
Puis il lança à April.
« Quelqu'un viendra vous chercher vers 22 heures. Tenez-vous prête, c'est très important. »«
Merci, » répondit-elle avant de suivre frère Michael à l'intérieur.